Or, chers amis, chers camarades, au nom des camarades, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à tous. Avant que nous passions à l'apéritif, je veux dire quelques mots de l'actualité et des perspectives politiques que nous défendons. Le gouvernement a choisi l'épreuve de force contre les cheminots et à travers les cheminots avec l'ensemble du monde du travail. En s'attaquant aux cheminots, à ceux qui ont la réputation de ne pas se laisser faire, à ceux qui peuvent bloquer le pays, à ceux qui ont fait reculer Juppé en 1995, le gouvernement veut donner une leçon à tous les travailleurs. Ce gouvernement de riches, au service des riches, veut continuer de transformer toute la classe ouvrière en travailleurs de plus en plus précaires. Alors il met en avant des prétextes, comme le statut des cheminots, qui ne serait plus supportable parce qu'il donne un certain nombre de garanties à ceux qui l'ont encore. Ce statut a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, alors que c'était la pénurie. Il y avait des tickets de rationnement que le pays était à reconstruire. Et aujourd'hui, on n'aurait plus les moyens d'avoir ce statut. Mais de qui se moque-t-on? Le gouvernement justifie ses attaques par la dette de la SNCF, qui est brandie comme un épouvantail. En raison de cette dette, les cheminots devraient accepter tous ces reculs. Mais pour qui a-t-elle été faite, cette dette? Est-ce pour les cheminots ou est-ce pour les Bouygues, les Alstom, les Bombardiers, les Vinci, tous ces groupes capitalistes qui vivent comme des sangsues sur toute la société? Poser la question, c'est y répondre. La dette de la SNCF, comme celle de tous les services publics ou de l'État, a enrichi des sociétés privées et est une aubaine pour les banques qui se gavent des intérêts qu'elles rapportent. Pendant qu'au nom de la dette, des emplois sont supprimés. À la SNCF, 100 000 emplois de cheminots ont été supprimés ces 30 dernières années. Et comme partout, les emplois précaires et la sous-traitance se sont généralisés. Alors, il est à espérer que les cheminots sauront trouver l'énergie et la combativité pour remettre à sa place Macron et lui faire avaler ses projets, tout comme l'ont fait les cheminots il y a 23 ans avec Juppé. Le 22 mars, les cheminots et toute la fonction publique sont appelés à la grève et à manifester contre les attaques gouvernementales. Nous sommes tous concernés, car ce sont les services publics qui sont attaqués et il est à espérer que le 22 mars soit le début d'une mobilisation qui aille en s'amplifiant. Travailleurs du public comme du privé, intérimaires comme embauchés en CDI, retraités ou chômeurs, nous sommes tous concernés. Ce n'est pas que l'affaire des seuls cheminots. Et il faut que ceux-ci sentent que les travailleurs, les chômeurs, les retraités ne marchent pas dans le baratin gouvernemental sur les prétendus privilèges des cheminots qui ne visent qu'à diviser le monde du travail. Du côté des confédérations syndicales, elles n'ont rien trouvé de mieux que de programmer la suite du 22 mars au 3 avril. Et cela, quel que soit le succès de la grève du 22 mars. Les cheminots sont priés de se plier au calendrier des confédérations syndicales qui ont programmé 36 jours de grève perlée entre le mois d'avril et le mois de juin. Sans compter les cortèges séparés à Paris pour le 22 mars, les cheminots d'un côté et la fonction publique de l'autre, même si les deux se retrouvent à la fin. Mais les confédérations syndicales ne se sont jamais, au grand jamais, conduites en généraux prêts au combat. En 1968 ou en 1936, c'est de la base qu'est partie l'initiative. quoi que les confédérations programment, c'est à nous, c'est aux travailleurs de décider. Les travailleurs doivent compter sur leur détermination. Il faut s'emparer des mobilisations à venir pour faire reculer ce gouvernement de millionnaires au service des millionnaires. Notre force, c'est que toute la société repose sur nos épaules. Car c'est nous qui faisons tout fonctionner la société. Et nous pouvons aussi tout arrêter. Macron n'a Dieu que pour la bourgeoisie et les machines à faire du fric. Vous avez vu les profits du CAC 40. Plus de 93 milliards en 2017, je veux dire l'année dernière. En augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. La machine à cash tourne à plein régime pour les multinationales, que sont Google, Facebook, Amazon, Apple, mais aussi Peugeot, Renault, Sanofi, Société Générale, Lactalis. C'est pour elles que Macron a conçu les ordonnances de travail et rendu moins cher et plus facile les licenciements. C'est pour elles qu'il a baissé la taxation du capital et pour les riches qu'il a supprimé l'impôt sur la fortune. L'État y a laissé 9 milliards. C'est 9 milliards de cadeaux faits à la bourgeoisie. Tandis que pour les maisons de retraite, le gouvernement a promis une rallonge de seulement 50 millions. Dans le même temps, il y a la rengaine sur le retour de la croissance. Même quand bien même la reprise économique serait un tant soit peu durable, elle ne profitera pas au monde du travail. On le voit dans toutes les entreprises. Est-ce que le grand patronat relâche la pression sur les travailleurs? Est-ce qu'il revient sur les sacrifices qu'il a imposés ces dernières années? L'allongement du temps de travail, l'augmentation des cadences et le blocage des salaires. Est-ce qu'il a créé des emplois? Non. Le grand patronat a fait bondir son taux de profit précisément parce qu'il a renforcé partout l'exploitation et parce qu'il a accru le pillage des caisses publiques. Cela, il le poursuivra. Il ne renoncera jamais de son plein gré à ses profits. Tant qu'il n'a pas de contestation du côté du monde ouvrier, il poussera son avantage et profitera du rapport de force qui lui est favorable. Pour que cela change, il faut que les travailleurs défendent leur intérêt contre le grand patronat. Toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs n'ont jamais rien obtenu que par les luttes. Il y a 50 ans, en mai-juin 68, c'est la grève générale qui fit lâcher à De Gaulle une augmentation du SMIC de 35% et provoqua en moyenne une hausse de salaire réel entre 10 et 20%. En 1936, c'est la grève générale qui imposa la semaine de 5 jours, les 40 heures, les congés payés et les conventions collectives à un patronat tremblant devant les occupations d'usines. Et c'est sans parler des périodes de révolution comme la Commune de Paris de 1871 ou la Révolution russe de 1917 où les travailleurs ont réussi, ne serait-ce qu'un temps, à instaurer leur propre pouvoir. Bien des travailleurs, c'est le cas de nos camarades de travail, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, ne croient pas en la possibilité de telles luttes aujourd'hui. Quand il y a 5 millions de chômeurs, et des millions d'autres qui sont condamnés à des petits boulots précaires, sous-payés. La lutte collective est en effet plus difficile. Mais les mobilisations des années 30, où le chômage et la précarité étaient la règle, montrent que ces obstacles peuvent être renversés. Je dis cela parce que la crise et le chômage n'expliquent pas tout. Il y a aussi le désarroi politique causé par les espoirs qui ont été placés dans les partis de gauche. Il y a le sentiment de trahison et l'amertume qui conduisent beaucoup de travailleurs trompés par l'électoralisme des partis de gauche à ne plus croire en rien. Contre cette désorientation et cette démoralisation, il n'y a pas de solution miracle. Seule l'existence d'un parti représentant les intérêts des travailleurs, avec la présence partout de femmes et d'hommes qui défendent les convictions et un idéal émancipateur, peut redonner de la force politique et morale au monde du travail. L'indifférence politique, le repli sur soi, pire, le soutien des politiciens du monde bourgeois, comme Le Pen, sont des impasses dangereuses. Tout ce que le Front National sait faire, c'est prôner la guerre entre travailleurs selon leur origine et leur nationalité, et dédouaner les exploiteurs de leurs responsabilités dans le chômage et les bas salaires. Il faut reconstruire un parti sur la base des idées de lutte de classe, sur la base des idées socialistes et communistes originelles. Les travailleurs n'ont pas besoin d'un énième parti de gauche qui les lanterne avec les élections en leur faisant croire que leur sort peut changer par la magie d'un bulletin de vote. Les véritables maîtres de cette société, les capitalistes à la tête des banques et des grands groupes, ne sont pas élus. Les règles qui régentent l'économie, la concurrence, les lois du marché et du profit, l'exploitation des travailleurs et la lutte de classe qui oppose la classe capitaliste au monde du travail ne dépendent pas de quel politicien bourgeois est à la tête de l'État. Les travailleurs ont besoin d'un parti qui milite au sein de la classe ouvrière, dans les entreprises et dans les quartiers populaires, pour qu'ils retrouvent confiance en eux-mêmes et renouent avec la conscience de classe. On le voit aujourd'hui, avec les oppositions artificielles entre Français et étrangers, travailleurs en activité et chômeurs, ou encore salariés du privé ou du public. Tout est fait pour casser les liens de solidarité et de confiance que les travailleurs peuvent tisser. Les valeurs de la bourgeoisie, l'enrichissement personnel et le culte de l'individualisme sapent constamment la conscience collective d'appartenir à une même classe sociale. Seule l'intervention consciente des militants et d'un parti peut assurer la pérennité de cette conscience de classe. Et ce parti doit toujours et encore se revendiquer des idées communistes et révolutionnaires, c'est-à-dire de l'expropriation de la bourgeoisie, des grands moyens de production et de leur mise en commun. Il n'y a pas de solution intermédiaire. On peut limer les dents d'un requin, mais elles repoussent et le combat est sans cesse à recommencer. Alors il ne s'agit pas seulement de limiter l'exploitation, il faut la supprimer en contestant à la bourgeoisie la direction de la société, c'est-à-dire en l'expropriant. La bourgeoisie est une classe de plus en plus parasitaire. Non seulement elle tire sa fortune exorbitante de l'exploitation de générations de travailleurs, mais elle ne se donne même plus la peine de développer la production. Son activité principale consiste à boursicoter et spéculer sur les marchés financiers. La bourgeoisie est aussi une classe irresponsable, dans tous les sens du terme. Les scandales sanitaires à répétition le montrent. On a connu la vache folle, le Mediator, les prothèses PIP, les moteurs truqués des Volkswagen, ainsi que Renault et PSA, le lait pour bébé de Lactalis, empoisonné à la salmonelle. Les multinationales n'ont aucun scrupule, et on n'est pas au bout de nos surprises. La bourgeoisie est irresponsable car elle crée, car elle a érigé le profit en Dieu tout-puissant. Cette course au profit est dangereuse et criminelle. Elle est dans les transports, elle est dans l'agroalimentaire, dans la santé, dans les domaines de l'énergie et du nucléaire. Et ce sera la règle tant que la bourgeoisie régnera. Et à cela, il faut ajouter les menaces guerrières, le terrorisme, ainsi que la catastrophe écologique qu'entraînent les dérèglements climatiques. Le combat des travailleurs pour se libérer de l'exploitation se confond avec celui de renverser la société capitaliste. C'est pourquoi, je le redis, le parti qui représente les intérêts matériels et politiques des travailleurs se doit d'être aussi un parti communiste révolutionnaire. Un parti qui vise le renversement du capitalisme et la construction d'une société et d'une économie débarrassée de la concurrence et de la loi du profit, une société sans classe, une société communiste. Les grands médias et les politiciens nous expliquent que sans la bourgeoisie, rien ne se ferait, car c'est elle qui entreprend et sait diriger. Mais dans l'écrasante majorité des cas, la bourgeoisie ne dirige pas, elle encaisse. Pour diriger ses entreprises, elle paye du haut en bas de la hiérarchie toute une armada de mercenaires obsédés par la rentabilité. C'est sur les ouvriers, les employés, les comptables, ceux qui sont en bas de l'échelle, que retombent les problèmes et les conséquences de leurs décisions. Dans les entreprises, ce sont les travailleurs qui connaissent ce travail, résolvent les problèmes techniques et font tourner la boutique. Mais parce qu'on nous assène qu'il faut des patrons pour diriger, ils ne croient pas en leur capacité collective. Et c'est la même chose à l'échelle politique. On nous rabâche que pour faire fonctionner l'État, il faut avoir fait de hautes études, appartenir aux élites. Parce que certains seraient qualifiés pour diriger, il faudrait les laisser faire. Non, il faut s'opposer à cette idée-là. Nous, les travailleurs, nous représentons mille fois mieux la vie et les intérêts de la majorité de la population. Eh bien, lorsque les nôtres seront entraînés dans de grandes luttes, ils réaliseront ce qu'ils sont capables de faire ensemble. Et nul doute que si les travailleurs accédaient au pouvoir, ils auraient, eux, pour priorité de satisfaire les besoins essentiels des plus pauvres. Et tous les problèmes qui apparaissent aujourd'hui comme insolubles, loger tout le monde, soigner, donner du travail et de l'éducation de tous, accueillir les migrants, tous ces problèmes trouveraient la solution. Alors vive les luttes des travailleurs, vive les idées communistes révolutionnaires et vive l'internationalisme. Alors je vous propose de chanter l'International, le chant de lutte des travailleurs qui affirme qu'au-delà des frontières, les travailleurs sont une même classe, la seule capable de construire une société humaine, fraternelle et égalitaire.
Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase, fous l'esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain.